Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Comme le lundi 13 juillet, mais cette chronique, comme la semaine dernière, a été enregistrée à l'avance en raison cette semaine de la fermeture des studios de RLP ce lundi 13 juillet. Je voudrais donc dans cette chronique reprendre un des documents émis par l'agence Média Palestine, éléments d'information qui sont repris par la Fédération de la Libre Pensée et communiqués à l'ensemble de nos militants pour disposer de toute une série de précisions sur ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et d'une manière plus générale tout ce qui concerne le peuple palestinien. Premier document que je vous propose, c'est un document donc de l'agence Média Palestine au sujet du plan israélien de départ volontaire, bien sûr toute une série de guillemets, des Palestiniennes et Palestiniens de la bande de Gaza. Alors que le Premier ministre israélien appelait dimanche dernier à un contrôle total d'Israël sur la bande de Gaza et à l'implantation de colonies israéliennes sur la bande de Gaza, son gouvernement tente d'accélérer la mise en œuvre d'un plan de départ volontaire, donc avec beaucoup de guillemets, pour les Palestiniennes et Palestiniens de Gaza. Selon le quotidien israélien Haaretz, le nouveau chef du Conseil de sécurité nationale israélien, Shmuel Ben Ezra, a convoqué une réunion d'urgence cette semaine afin de discuter des moyens d'encourager les migrations volontaires, pour reprendre ces termes, des Palestiniennes et Palestiniens de la bande de Gaza. Des responsables de l'armée israélienne, du Shin Bet et du Mossad auraient participé à cette réunion. Les responsables de la sécurité auraient exprimé leur surprise face à l'urgence de la reprise de ces discussions, soulignant que des propositions similaires avaient été avancées à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, sans aboutir à des résultats concrets. Cette nouvelle initiative intervient alors que le génocide perpétré par Israël a dévasté Gaza, déplacé la quasi-totalité de la population et suscité des accusations de plus en plus nombreuses selon lesquelles Tel Aviv recourt à la famine, au siège, au bombardement et à la destruction pour forcer des Palestiniennes et Palestiniens à partir sous couvert d'un départ volontaire, entre guillemets bien sûr. L'idée d'expulser de force les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza s'inscrit dans une logique de transfert, profondément ancrée dans l'ADN politique israélien bien avant le génocide en cours à Gaza. Sa promotion a été d'autant plus vive depuis le 7 octobre 2023, présentée comme une solution à un soi-disant conflit, souvent considéré irréaliste. Au-delà de considérations éthiques et de droit international, l'expulsion des 2 millions de Palestiniennes et Palestiniens n'en demeure pour moi un objectif largement assumé dans le discours politique israélien depuis octobre 2023, de la stratégie militaire de fragmentation du territoire au projet de construction de, citation, « communautés sûres et alternatives et contrôlées par Israël sur les ruines de Rafah ». La création en mars dernier d'une administration spécifique chargée d'administrer le projet de départ volontaire, toujours avec les guillemets, des Gazaouis, a placé cette revendication à l'agenda officiel du gouvernement israélien, quand bien même elle entre en contradiction totale avec le plan de paix, et là encore avec les guillemets, officiellement en vigueur depuis octobre 2025. Aussi cynique que cela puisse paraître, l'obstacle principal à ce plan est d'ordre matériel. Déplacer 2 millions de personnes implique d'avoir une destination. Et c'est là le problème principal pour Israël. Un responsable israélien cité par Haaretz aurait déclaré que les autorités n'avaient toujours pas connaissance d'un État disposé à accueillir les Palestiniennes et Palestiniens de Gaza, et reconnu qu'une telle initiative nécessiterait une coordination internationale de grande envergure et des accords politiques qui n'existent pas à l'heure actuelle. À ce jour, nous ne connaissons aucun pays du monde au monde disposé à accueillir des Palestiniennes et Palestiniens qui choisissent de quitter la bande de Gaza, a déclaré un responsable de la défense au fait des détails dans l'article Haaretz. Ce dernier ajoute « Aucun changement connu ne permettrait une telle initiative sans une coordination internationale complexe. » Une source qatarie citée par Haaretz qualifie ce projet d'illusoire, affirmant qu'aucun pays n'accueillera les Gazaouis, ni 1 million, ni 5 millions. Une dernière source affirme qu'un tel plan manquerait de faisabilité politique ou internationale, invoquant l'opposition des États arabes et de la communauté internationale dans son ensemble. La proposition n'en est pas moins continuellement avancée au mépris des déclarations des ONG de défense des droits humains qui dénoncent un nettoyage ethnique. Une source des services de sécurité a également déclaré à Haaretz qu'il ne fallait pas exclure que la reprise de ce débat s'inscrive dans le cadre d'un paquet de compensation offert au Premier ministre Benjamin Netanyahou par le président états-unien Donald Trump après l'accord entre les États-Unis et l'Iran. L'omniprésence de cette question, en dehors de sa faisabilité immédiate, pourrait être une manière d'en normaliser le discours déjà consensuel au sein du gouvernement israélien. Selon un sondage réalisé l'année dernière par le Jewish People Policy Institute, plus de 70% des électeurs et électrices du Likoud soutiennent l'idée d'expulser la population palestinienne de sa patrie, et le soutien à l'expulsion des Palestiniens et Palestiniens ne se limite pas à la bande de Gaza. Nissim Vaturi, député du Likoud, a tenu mardi dernier des propos racistes, appelant au nettoyage ethnique, affirmant sur Channel 14 News que les Israéliens et les Israéliennes juifs et juives, citation, ne pourront pas vivre ici en paix tant que nous n'aurons pas expulsé tous les Arabes de cette région, fin de citation. Il ne devrait y avoir aucun Arabe ici, a poursuivi Nassim Vaturi, qui occupe le poste de vice-président de la Knesset. Nous devons renforcer la colonisation juive en Judée et en Samarie, comme Israélien pour désigner la Cisjordanie. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre ici en terre d'Israël. C'est ce qu'il faut faire pour renforcer Israël. Il n'y a pas d'autre solution. Ils, donc les Palestiniens, doivent tous être expulsés d'ici. Toujours des citations donc d'Nassim Vaturi. Dans un communiqué publié en avril, l'ONG Euromed Monitor dénonce le fait que, citation, les projets actuels de déplacement forcé des Gazaouis s'inscrivent dans le prolongement direct du projet colonialiste de peuplement mené de longue date par Israël qui vise à effacer l'existence palestinienne et à s'emparer des terres. Par le biais d'actions sur le terrain et de mesures institutionnelles visant à présenter ce crime comme une migration volontaire, Israël a tenté de mener à bien sa campagne de déplacement en tirant parti du silence quasi total de la communauté internationale, ce qui a permis la poursuite de ce crime et l'impunité d'Israël, malgré le caractère sans précédent du premier génocide de l'histoire de l'humanité diffusé en direct. Voilà, c'est la fin de ce premier article de l'agence Média Palestine que je souhaitais porter à votre connaissance. Second article de l'agence Média Palestine, le Conseil de la paix, entre guillemets, voudrait s'octroyer l'immunité judiciaire et le droit de confisquer des biens palestiniens. Avant même l'entrée en vigueur de l'accord de Sharm el-Sheikh de début octobre 2025, Israël avait explicitement proclamé n'avoir aucune intention d'en respecter les termes. 8 mois plus tard, et malheureusement sans surprise, Israël a assassiné plus de 1 000 Palestiniennes et Palestiniens à Gaza et continue de bloquer illégalement les points d'entrée et de sortie de l'enclave et d'étendre brutalement sa zone de contrôle en repoussant la ligne jaune. Loin de se formaliser de ces exactions, le Conseil de la paix, entre guillemets, créé avec l'objectif de chapeauter ce cessez-le-feu de papier, a lui bien avancé dans sa construction d'un nouvel ordre colonial malgré son inertie sur le terrain. Selon plusieurs documents fuités la semaine passée, le Conseil a appliqué la stratégie israélienne de négation de toute perspective politique palestinienne en avançant le désarmement comme prérequis, tout en préparant des résolutions internes qui lui permettraient d'agir comme une entité juridique autonome qui n'aurait pas à rendre de compte et de s'emparer de biens palestiniens, entre guillemets, à titre gratuit. Selon un documentaire de 4 pages classé « sensible mais non classifié », et révélé samedi dernier par le Guardian, le dénommé Conseil de la paix prévoirait de s'octroyer une immunité juridique totale dans ses actions à Gaza. Un texte qui inquiète, alors que les observateurs des droits humains sont déjà largement criminalisés et obstrués dans leur travail, à Gaza comme en Cisjordanie, comme nous le rapportions dans cet article de l'agence Média Palestine. Le texte, encore à l'état de projet, étant de vastes protections à tous les membres du Conseil pour la paix et à son entité administrative affiliée, le bureau du haut représentant, OHR, ainsi qu'aux technocrates palestiniens, aux forces militaires internationales et aux contractants non résidents appelés à intervenir à Gaza. Selon cette résolution, qui pourrait entrer en vigueur par une simple signature du haut responsable du Conseil de la paix, Nikolaï Mladenov, les individus et entités concernés seraient exemptés de toute arrestation, détention, poursuite judiciaire devant les tribunaux ou autres instances de Gaza. Émilie Schaeffer-Omerman, experte en droit international humanitaire, explique au Guardian que ce projet, citation, semble constituer une tentative visant à soustraire le conseil d'administration ainsi que l'ensemble de son personnel à toute responsabilité en cas d'éventuelle violation de la loi. En substance, ils affirment qu'il n'y a aucune supervision extérieure, y compris au regard du droit international applicable en matière d'occupation. Fin de citation. Confirme Noura Erkat, avocate et défenseuse des droits humains. Et elle poursuit, cela revient à créer un système juridique autonome. Sans répondre directement aux préoccupations soulevées par The Guardian, la représentante du Conseil a affirmé que celui-ci, citation, veillera à ce que l'ensemble du personnel, des contractants et des entités participantes respectent la législation en vigueur et opèrent dans le cadre de règles claires ainsi que de mécanismes de supervision et de responsabilisation, sans toutefois préciser en quoi consisteraient ces mécanismes de supervision et de responsabilisation. Cette résolution, qui s'appuie sur un cadre légal existant et garantissant aux diplomates de l'ONU dans l'exercice de leurs fonctions officielles une protection contre les arrestations, pourrait ne pas être étendue aux membres du Conseil, estiment les experts interrogés par le Guardian. Toutefois, le contexte d'impunité conféré à Israël, qui commet un génocide à Gaza depuis bientôt 1000 jours, laisse craindre que le Conseil de la paix n'utilise ce texte pour obstruer des enquêtes indépendantes sur les éventuels crimes commis à Gaza. Selon les experts juridiques cités par le Guardian, la résolution confère en outre au BOP le pouvoir d'occuper et d'utiliser tout bien public de Gaza, citation, nécessaire à l'accomplissement des missions à Gaza, en précisant que ces installations doivent être mises à disposition à titre gracieux, sans préciser si ces biens devaient être fournis par Israël, le Hamas ou l'autorité palestinienne. Les experts craignent qu'une telle formulation n'entraîne la confiscation illégale de biens palestiniens par les membres du conseil d'administration, alors qu'Israël poursuit sa conquête progressive et illégale des territoires palestiniens en repoussant sa ligne jaune à Gaza, dont elle occupe à présent près de 65% du territoire. Pourtant, le plan de paix, entre guillemets, engage Israël à se retirer progressivement mais complètement de l'enclave palestinienne. En s'arrogeant unilatéralement le pouvoir de saisir des terres, des biens et des bâtiments palestiniens pour son propre usage, sans consentement, indemnisation ni recours, le Conseil pour la paix s'inspire directement des méthodes répressives d'Israël, explique Omar Shakir, directeur exécutif de l'organisation à but non lucratif DAWN, qui enquête sur les répercussions de la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient. Loin de marquer la fin du génocide, de l'apartheid et de l'occupation, ce document semble vouloir ancrer certaines de leurs caractéristiques les plus odieuses, poursuit-il. Cela risque non seulement d'entraîner une complicité, mais aussi la perpétration directe de violations graves. L'approbation du plan de paix de Donald Trump en novembre 2025 par le Conseil de sécurité de l'ONU a constitué un geste sans précédent, permettant à Trump et à son conseil privé, le tarif d'adhésion pour les pays souhaitant un siège permanent était affiché à 1 milliard de dollars, de déployer une force internationale à Gaza sans la participation ni le contrôle de l'ONU. Un symbole inquiétant que l'avocat et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, Kreb Bokiver, qualifiait alors d'outrage colonial, rappelant que cette proposition a été rejetée par la société civile et les factions palestiniennes ainsi que par les défenseurs des droits humains et du droit international partout dans le monde. De nombreux observateurs dénonçaient l'implémentation d'un nouvel ordre colonial dans lequel les Palestiniens se verraient relégués au troisième rang, avec des fonctions municipales empêchant toute forme d'autodétermination politique palestinienne. Et c'est précisément ce qu'a travaillé à faire le Conseil de la paix, qui a appuyé dans les négociations en vue de l'application de la seconde phase du cessez-le-feu des revendications israéliennes qui ne préfiguraient pas dans l'accord ratifié en octobre 2025. Dans des documents consultés par le média d'investigation Gobsat, il apparaît que le Conseil tente d'éroder l'insistance palestinienne sur le fait que tout accord à long terme doit inclure une voie claire vers la création d'un État palestinien jusqu'à transformer de fait un accord de cessez-le-feu limité en un règlement politique plus large fondé sur le désarmement de la résistance palestinienne et l'abandon de sa lutte de libération nationale. Ce à quoi nous assistons, c'est une tentative dans l'ombre d'un génocide de démanteler la résistance palestinienne par le biais de toutes ses conditions préalables, explique à Dropsight le maître de conférence Abdullah Al-Aryan. L'interprétation de cet accord est entre les mains d'acteurs qui, pour la plupart, sont tenus de donner de la priorité à la sécurité d'Israël. Et j'en arrive donc au troisième article, toujours tiré de l'agence Média Palestine. Les enfants palestiniens privés du droit d'être nommés dans la mort craignent de représailles israéliennes contre leur famille. L'un des co-auteurs du rapport de l'ONU sur le ciblage délibéré des enfants palestiniens par Israël explique que les victimes ont été anonymisées par crainte de représailles à l'encontre de leur famille. La décision la plus difficile que nous ayons dû prendre pour mener à bien ce rapport a été celle de ne pas citer les noms des enfants palestiniens dont nous avons décrit les décès, les blessures et les souffrances. Ces mots sont prononcés par Chris Sidoti, commissaire d'enquête à l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 23 juin dernier. Nous ne les avons pas nommés, car nous craignons les conséquences pour leurs familles, ajoute-t-il. Nous avons pour principe fondamental de ne pas ajouter davantage de souffrances à celles que ces personnes ont déjà endurées, et cela a été difficile pour nous de ne pas nommer ces enfants. Semaine dernière, la commission de l'ONU publiait un rapport historique qui démontre qu'Israël cible délibérément des enfants à Gaza et en Cisjordanie et conclut que cette pratique constitue une preuve d'intention génocidaire. Ce rapport de 88 pages intitulé « L'essence même de l'enfance a été détruite » examine l'ensemble des préjudices infligés aux enfants depuis le 7 octobre 2023, lors des tirs de précision effectués par des tireurs d'élite et des drones à la torture en détention, en passant par les violences liées à la santé reproductive et la destruction d'écoles et d'hôpitaux. Au-delà des faits individuels, l'ONU pointe que leur ensemble démontre un système et une volonté de déshumanisation. Or, et cela pourrait sembler contradictoire, le rapport ne donne aucune fois le nom des enfants dont les souffrances sont rapportées. Ce fut une décision difficile car les enfants ont, en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, le droit à un nom et à une identité, poursuit Chris Sidoti. Et l'une des difficultés pour faire comprendre au public la situation à Gaza et en Cisjordanie réside dans le fait que ces enfants sont anonymisés. Les enfants sont anonymisés dans les statistiques même, ils font état de dizaines de milliers d'enfants touchés de cette manière. Et ils ont certainement le droit d'être reconnus, d'être nommés dans la mort. Ce droit à un nom, à une histoire, est systématiquement refusé aux Palestiniens, que ce soit dans le silence biaisé des médias occidentaux, dans l'entrave à l'identification des corps par le blocus israélien et les pénuries qui en résultent, ou encore dans l'obligation d'anonymat par crainte de représailles. Un mécanisme tortueux qui empêche la victime palestinienne de la campagne israélienne de déshumanisation de porter elle-même leur voix. Donc c'est la fin de ce troisième article et je vous propose encore un article de l'agence Média Palestine intitulé et connaissant les conditions climatiques actuelles dans notre pays et dans notre département de la Dordogne, c'est un article je pense qui va permettre de bien comprendre les conditions épouvantables de vie et de survie on pourrait dire à Gaza. Pas de ventilateur, pas d'électricité, même pas de mur pour faire de l'ombre. L'été à Gaza ne fait qu'empirer les conditions de vie. La vie dans les tentes est vraiment difficile et éreintante, explique tristement Inas Amada, habitante d'un camp de réfugiés à Gaza, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun moyen de garder l'eau fraîche, pas de ventilateur, pas d'électricité ou d'air conditionné actionné, il n'y a pas de mur pour faire de l'ombre, ni de toit, rien, juste une tente, un bout de tissu, c'est éreintant. C'est une citation donc de Inas Amada. Dans toute la bande de Gaza, environ 170 000 foyers, soit près d'un million de personnes, vivent sous les tentes. 5 000 autres foyers dorment à la belle étoile, tandis que 52 000 vivent dans des refuges surpeuplés, selon le groupe de travail Shelter Cluster du Conseil norvégien pour les réfugiés et de ses partenaires. Ce mois-ci, 850 000 personnes manquent encore de matériel d'hébergement d'urgence, alerte le rapport du NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés. Il précise que ces chiffres témoignent d'une crise du logement qui n'est pas due aux conditions météorologiques, mais à la destruction, au déplacement de population et au blocage de l'aide humanitaire par Israël. Les températures à Gaza oscillent entre 28 et 31 degrés Celsius le matin et à l'intérieur des tentes. La chaleur est encore plus intense et ce n'est que le début de l'été qui ne fera qu'exacerber des difficultés auxquelles les familles sont confrontées. L'été dernier, une canicule meurtrière a fait grimper les températures à Gaza au-delà de 40 degrés C, augmentant le risque de déshydratation et gâchant des denrées alimentaires essentielles. Le seul exutoire de la bande de Gaza du nord au sud, c'est la mer, déclare Wadi Al-Ras, 36 ans, au micro de Reuters. Fuyant les chaleurs insoutenables des camps, les Gazaouis se dirigent en effet chaque jour vers la mer pour se baigner et laver leur linge. Le soulagement n'est que partiel, car le littoral est dangereusement pollué et l'eau est chargée d'eau usée et de déchets, conséquence de l'effondrement des infrastructures par les bombardements génocidaires israéliens. L'eau de mer n'est pas propre, regrette Shewab al-Suwaikeri, 36 ans, père de 6 enfants déplacés qui indique ne pas avoir d'autre choix. On y va pour laver nos vêtements et se laver, mais on ressort. De toute façon, les germes finissent par atteindre notre corps. En août, des tirs de la marine israélienne touchant les pêcheurs à proximité ou sur le littoral continuent d'être signalés, alors que les activités de pêche restent de fait restreintes, l'accès à la mer Méditerranée étant interdit par Israël. Un accès sûr à la mer est également essentiel pour des activités telles que la médiade et la fraîcheur, d'autant plus que les températures augmentent et qu'il n'y a pratiquement pas d'approvisionnement en électricité, alerte l'OCHR dans son dernier rapport. Dans un rapport publié en avril dernier, l'organisation Médecins sans frontières dénonçait la destruction et la privation d'eau et d'assainissement par Israël à Gaza, affirmant que l'instrumentalisation répétée de l'eau par les autorités israéliennes relevait d'un schéma récurrent, systématique et cumulatif. Dans les gigantesques et surpeuplés camps de fortune érigés à la hâte au cours des deux dernières années, les déchets et eaux usées ne peuvent être évacués et alimentent les épidémies et les nuisibles. Les services médicaux mettent en garde contre une charge épidémiologique persistante liée aux maladies infectieuses, rapportant de nombreux cas d'infections respiratoires aiguës, de maladies de la peau et de diarrhées aqueuses aiguës. L'accès à l'eau potable continue d'être gravement entravé. La plupart des systèmes de canalisation ayant été détruits par Israël, de même que la majorité des usines de désalinisation. Les autorités israéliennes savent que sans eau, la vie s'arrête. Pourtant, elles ont systématiquement et délibérément détruit les infrastructures hydrauliques à Gaza, tout en bloquant de manière constante l'entrée des équipements liés à l'eau, déclarait alors Claire Sanfilippo, responsable des urgences chez MSF. Des Palestiniens ont été blessés et tués alors qu'ils tentaient simplement d'accéder à l'eau, poursuit-elle. Cette privation, combinée à des conditions de vie désastreuses, à une surpopulation extrême et à l'effondrement du système de santé, crée des conditions propices à la propagation des maladies. Voilà, c'était donc la fin de cet article sur les conditions de vie à Gaza dans la canicule. Je vous propose de poursuivre toujours avec des informations données par l'agence Média Palestine, un bilan hebdomadaire de la situation en Cisjordanie occupée du 23 au 30 juin 2026. Ces informations nous arrivent régulièrement et je crois que un exemple de ces bilans hebdomadaires peut être effectivement très très intéressant. Aucun répit. La Cisjordanie occupée a connu du 23 au 30 juin 2026 une nouvelle intensification de la violence de la colonisation israélienne. Les violences militaires et les déplacements forcés de communautés palestiniennes se poursuivent, tandis que plusieurs enfants ont été tués ou arrêtés par l'armée israélienne. Des rapports alertent sur une transformation profonde du territoire et une annexion de fait en cours. La semaine du 23 au 30 juin 2026 confirme une tendance observée depuis plusieurs mois en Cisjordanie occupée. L'accélération simultanée de la colonisation, des déplacements forcés et de la répression militaire contre la population palestinienne. Les événements de ces derniers jours montrent la manière dont Israël harcèle nuit et jour le peuple palestinien dans la perspective d'une transformation radicale du territoire en vue de l'annexion de facto. Cette dynamique a été dénoncée cette semaine par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui évoque une expansion et une accélération implacable des colonies israéliennes, mais ne propose toujours aucune action concrète contre l'impunité israélienne. Dans le même temps, plusieurs rapports documentent comment les communautés palestiniennes sont définitivement chassées de leurs terres. De nouvelles infrastructures militaires traversant les terres agricoles de la vallée du Jourdain, la poursuite des raids quotidiens et une violence qui touche de manière croissante les enfants et les adolescents palestiniens. les enfants palestiniens, cible de la barbarie coloniale. Pour traumatiser durablement le peuple palestinien, les enfants et adolescents sont massivement ciblés par les opérations israéliennes en Cisjordanie occupée. Le 29 juin, l'amir Ahmad Jawad Jaber, âgé de 15 ans, a été exécuté lors d'un raid de l'armée israélienne à Oum al-Sharayit, un quartier de Al-Bayreh près de Ramallah. Selon le ministère palestinien de la Santé, l'adolescent a été atteint d'une balle à la tête et d'une autre à la poitrine. Le Croissant Rouge palestinien l'a transporté vers le complexe médical de Palestine où son décès a été constaté. L'armée israélienne affirme que les soldats ont ouvert le feu après des jets de pierres visant leur position. Les autorités palestiniennes dénoncent pour leur part une exécution extrajudiciaire, quelques heures avant sa mort. Des forces israéliennes avaient également mené plusieurs incursions dans les gouvernorats de Ramallah, Naplou, Jénine et Hébron, poursuivant une campagne de raid qui ne connaît pratiquement plus d'interruption depuis le début de l'année. La pression s'exerce également sur le système éducatif palestinien. La Société des prisonniers palestiniens a indiqué cette semaine que 65 lycées palestiniens ont été enlevés et détenus par Israël depuis le début de l'année 2026, dont 4 depuis le lancement des examens finaux du haut mois de juin. L'organisation estime que ces arrestations s'inscrivent dans une politique plus large visant les étudiants palestiniens à tous les niveaux de l'enseignement. Ces jeunes sont placés en détention administrative, sans inculpation ni procès. La Société des prisonniers palestiniens dénonce des pratiques de torture, des humiliations et des mauvais traitements systématiques dans les centres de détention israéliens. La publication cette semaine d'un nouveau rapport de l'Organisation israélienne de défense des droits humains B'Tselem vient renforcer ce constat. L'enquête revient sur les 54 enfants et adolescents palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée au cours de l'année 2025. L'organisation affirme que la majorité des victimes ne représentaient aucune menace immédiate au moment où elles ont été abattues. 21 enfants ont été tués alors qu'ils ne participaient à aucun affrontement. D'autres ont été atteints lors de raids militaires à proximité de leur domicile ou alors qu'ils circulaient dans la rue. Dans plusieurs cas, les soldats israéliens ont ouvert le feu contre des jeunes lançant des pierres sans qu'aucun militaire israélien ne soit blessé. Le rapport documente également plusieurs situations pour lesquelles les secours ont été empêchés d'intervenir rapidement. Les ambulances ont été retardées ou empêchées d'accéder aux blessés, tandis que des proches ont essuyé des tirs lorsqu'ils sentaient de porter assistance aux victimes. B'Tselem souligne enfin qu'Israël retient toujours les corps de 18 enfants et adolescents tués en 2025. L'organisation estime que cette pratique, dénoncée depuis plusieurs années par les organisations de défense des droits humains, prolonge délibérément la souffrance des familles en les empêchant d'organiser des funérailles et de faire leur deuil. B'Tselem dénonce la normalisation de l'usage de la force létale contre des mineurs palestiniens dans un contexte où les enquêtes sont rarissimes et les poursuites quasi inexistantes. Je terminerai ces informations fournies par l'agence Média Palestine par ce témoignage du père de Sam, 7 mois, face à l'indicible « Mon fils n'est pas un numéro ». Dans un témoignage diffusé par cette semaine par RFI, Fahd Abou Aïkal raconte la mort de son fils Sam, âgé de 7 mois, tué récemment d'une balle dans la tête dans les bras de sa mère, par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Assis chez lui, il regarde les photos de l'enfant sur son téléphone et répète son refus de voir son histoire réduite à une statistique parmi d'autres. « Mon Sam n'est pas un simple numéro », dit-il. Son témoignage illustre la souffrance insondable d'une population confrontée à la perte d'enfants dans un cadre de violence systématique, sans perspective de justice. Voilà, j'en arrête là, mais je pourrais continuer pendant des heures et des heures, tant sont abondantes les informations fournies par l'agence Média Palestine, des dizaines et des dizaines de témoignages, tous plus terribles les uns que les autres, montrent comment l'armée israélienne et le gouvernement Netanyahou perpétuent ce génocide à Gaza et dans les territoires palestiniens. Donc, je vous propose maintenant de nous retrouver pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller, lundi prochain, et donc on sera le 20 juillet. Merci et bonne semaine à tous.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.